Voilà, bonjour à toutes et à tous. Ravi de voir quelques visages familiers et aussi de voir notre frère Oscar qui est parmi nous malgré sa blessure. Nous sommes reconnaissants de voir les uns les autres. Bienvenue en tout cas. Et je voudrais commencer par déjà vous poser cette question. Depuis combien de générations êtes-vous chrétien dans votre famille? Alors je vous laisse compter, ça, le compte peut être très rapide. Hein. Mais depuis combien de générations êtes-vous chrétien dans votre famille? Et je ne parle pas de ceux qui se disent chrétiens par tradition, mais de celles et ceux qui ont véritablement placé leur foi en Jésus-Christ. Est-ce que cela remonte à vos parents, à vos grands-parents, à vos aïeuls? Jusqu'à la cinquième, sixième génération, peut-être. Je ne sais pas. Ou bien êtes-vous le premier, la première, à vous être tourné vers Christ? Et personne d'autre dans votre entourage ne connaît le Seigneur. En ce qui me concerne, et à ma connaissance, hein, Dieu a d'abord appelé ma grand-mère à la foi, puis ma mère, puis moi. Et je me suis demandé cette semaine si parmi mes ancêtres, Dieu les avait aussi appelés à la foi, ou bien si tout avait commencé avec ma grand-mère. D'après le texte que nous venons de lire, si ma grand-mère, ma mère et moi, nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, c'est parce qu'au préalable, Dieu nous avait choisis. Dimanche dernier, avec Clément, nous avons repris notre série de prédications sur l'Épître aux Romains. Et nous allons consacrer quelques dimanches à nous pencher sur les chapitres 9 à 11 qui sont réputés difficiles. Et je pense que vous pouvez le sentir, que vous l'avez peut-être senti à la lecture du texte de ce matin. Il y a des versets dans notre texte qui heurtent notre logique, qui nous bousculent dans notre manière de voir Dieu. Dieu est-il vraiment comme ça? Est-ce que j'ai bien compris ce que j'ai lu? Dieu peut-il vraiment dire « j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü » Dieu endurcit-il vraiment qui il veut? Est-il possible que Dieu choisisse les uns et pas les autres? Et la question, enfin la réponse à toutes ces questions-là, c'est oui. Oui, c'est bien de Dieu dont on parle. Et c'est bien ce que nous lisons dans notre texte. Le texte ne fait planer aucun doute. Alors, comme Paul le pressentait déjà, des objections nous viennent en tête. Mais dans ce cas, Dieu est injuste. Dieu est injuste s'il choisit les uns et pas les autres. S'il sauve les uns et pas les autres. Et si tout dépend de son choix, ai-je encore mon mot à dire? Qui peut résister à sa volonté? Paul mentionne dans notre texte ses objections. Et il y répond. Et il a conscience que le sujet de l'élection, le sujet que nous allons aborder ce matin, n'est pas facile. Et alors que nous avons toutes ces questions dans notre tête, j'aimerais nous poser cette autre question ce matin. Nous avons lu une fois ce texte, à l'instant. Quelle est la tonalité de notre passage? Sur quel ton Paul s'exprime ici? Est-ce plutôt sombre, sans issue, désespérant? Ou bien est-ce lumineux, glorieux, inattendu, dans le bon sens du terme? Nous allons nous en rendre compte dans un instant, quand nous allons progresser dans ce texte. Mais posons-nous déjà cette question-là. Quelle est la tonalité de ce texte? Plutôt sombre? Plutôt lumineux? Et j'aimerais ce matin souligner trois vérités qui sont mises en avant par l'apôtre Paul. Et nous verrons ce que cela implique pour nous. Premièrement, Dieu choisit librement. Deuxièmement, Dieu fait grâce librement. Et enfin, troisièmement, Dieu appelle librement. Dieu choisit, fait grâce et appelle. D'abord, Dieu choisit. Et rappelons d'abord comment le chapitre 9 démarre ici. Après avoir évoqué au chapitre 8 les réalités glorieuses qui concernent les enfants de Dieu, Paul en vient à partager ses sentiments, sa douleur profonde, sa grande tristesse à propos de ses frères, à propos des Israélites incrédules qui ont rejeté le Messie envoyé par Dieu. Comment est-ce possible qu'un peuple qui a un héritage si précieux, qui a une histoire aussi longue avec Dieu, passe à côté du plus important? Comment est-ce possible? Paul dit bien au verset 4, à eux les promesses. Ils avaient tout, tout ce qui constituait leur horizon d'attente, avec la promesse d'un roi qui apporterait la paix et le salut. Et Dieu a accompli cette parole, cette promesse. Il a envoyé Jésus, ce roi. Mais ils n'ont pas cru. Pourquoi? Pourquoi n'ont-ils pas cru, alors que les promesses étaient pour eux? Dieu n'avait-il pas promis à Abraham qu'il serait béni ainsi que sa descendance? Pourquoi? Et avant de répondre aux préoccupations du moment, Paul remonte aux origines du peuple d'Israël. Avec cette première affirmation, Dieu n'a pas failli. Dieu a tenu parole. La promesse qu'il a faite, il l'a tenue. Et voici ce que nous lisons à partir du verset 6. « Car ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. Et bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Au contraire, il est dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. La parole que voici était en effet une promesse. Je reviendrai à la même époque et Sarah aura un fils. » Il est clair que c'est Dieu qui choisit les siens. Et parmi les enfants qu'Abraham a eus, parce qu'il en a eu plusieurs, hein, Dieu choisit Isaac, l'enfant de la promesse. L'apôtre Paul rappelle ce que Dieu dit dans le livre de la Genèse. Cet enfant, Isaac, est lié à une promesse de Dieu. Sarah, la mère de l'enfant, était incapable d'enfanter. Elle était stérile. Pourtant, comme Dieu l'avait promis, elle a eu un fils. Nous voyons à cet endroit de l'histoire que cela ne pouvait relever que du choix de Dieu et non des hommes. Et nous voyons aussi avec Paul que cela ne relève que de la promesse de Dieu et non de considérations biologiques. Nous le voyons au verset 8. Cela signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance. Autrement dit, tous les fils et tous les descendants d'Abraham ne sont pas concernés par la promesse. Seuls ceux que Dieu a choisis. Et Paul mentionne l'exemple de la génération suivante. Isaac, à son tour, va être père, père de deux jumeaux. Leur mère, Rebecca, a reçu cette parole avant leur naissance. Nous le lisons au verset 12. « L'aîné sera asservi au plus jeune. » Dieu dit à la mère, chez qui voilà, il y avait les deux enfants qui bousculaient un petit peu, « L'aîné sera asservi au plus jeune. » Et tout en racontant cela, eh bien, Paul donne une précision à ce sujet. Il dit que les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient donc fait ni bien ni mal, afin que le plan de Dieu subsiste conformément à son choix et sans dépendre des œuvres, mais de celui qui appelle. Voilà une précision très importante. Ces enfants n'avaient fait ni bien ni mal, mais Dieu avait déjà choisi. Donc ça ne dépend pas de ce qu'ils avaient fait ou de ce qu'ils feraient. Mystérieusement, ce n'est pas Ésaü qui a été choisi, mais Jacob. Mystérieusement, ce n'est pas l'aîné qui a été choisi, mais le cadet. Et il en est ainsi parce que c'était le plan de Dieu. Dieu n'a pas eu pour critère ce que l'un et l'autre avaient fait ou ce qu'ils allaient faire. Dieu n'a pas choisi en fonction de leurs œuvres. C'était juste son libre choix. Sans que cela soit lié aux actions de l'un et de l'autre. Son libre choix. Quand Dieu nous a appelés à lui, Il ne l'a pas fait en fonction de nos compétences, de nos mérites ou de nos accomplissements. Il nous a appelés parce que cela faisait partie de son plan. Il s'est fait connaître à nous parce que cela faisait partie de son plan. Le choix de Dieu défie toute logique humaine. Quand Dieu dit en Malachie, chapitre 1, versets 2 à 3, « J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü », c'est précisément l'expression de ce choix. Derrière cette formule qui nous choque de prime abord, il y a ce choix qui nous choque peut-être aussi. Pourquoi l'un plutôt que l'autre? Surtout dans le cas de jumeaux, qu'est-ce qui les distingue? Dieu ne nous donne pas d'autre explication. C'est comme si vous êtes là en train de repenser à votre famille. Pourquoi nous et pas les autres? Dans son amour, Dieu a choisi Isaac, il a choisi Jacob, et il t'a choisi si tu as répondu par la foi à son appel. On ne peut le savoir qu'après coup, mais tu peux affirmer, si tu as mis ta foi en Christ, qu'il t'a choisi. Le choix de Dieu n'est vraiment pas lié à nos œuvres. Le salut que Dieu nous accorde n'est vraiment pas lié à nos œuvres, à ce que nous avons pu faire. Ce n'est pas parce que Dieu savait ce que j'allais faire qu'il m'a choisi. Pour le dire encore autrement, si nous croyons en Jésus-Christ, si notre foi est dans sa mort pour nos péchés et dans sa résurrection, c'est parce qu'il nous avait choisis. Si vous avez pu dire oui à Dieu, c'est parce qu'il vous avait choisis. Avant même que nous fassions quoi que ce soit. Et un autre texte de Paul le dit, hein, aux Éphésiens, il écrit, Éphésiens chapitre 1, verset 4, « En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Il nous avait choisis avant la création du monde. » Que Dieu choisisse un pécheur comme moi doit m'étonner, doit m'émerveiller. Que Dieu ait voulu, avant la création du monde, que je fasse partie de son peuple, doit me remplir de gratitude. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Absolument rien, parce que ce n'est pas la bonne question. Il est clair que je ne trouverai pas d'explication valable au choix de Dieu en ce qui me concerne. Il est clair que cette vérité me rend humble, car je n'ai rien à faire valoir par rapport à d'autres. Aucune supériorité, aucune infériorité ou handicap dont Dieu aurait eu pitié. Non, rien, aucun critère de ce genre. Nous devons nous rendre humblement à l'évidence devant la parole de Dieu que nous avons là. Nous ne devons notre salut qu'au choix de Dieu. Un choix qui précède notre réponse à son appel. Oui, il a bien fallu qu'il nous choisisse d'abord pour que nous puissions répondre oui en retour. Ce n'est pas par hasard si nous avons dit oui au Seigneur. Mais alors, qu'en est-il des autres? Dieu a choisi Jacob, mais pas Ésaü. Et à notre échelle, cela peut paraître totalement injuste. Alors regardons comment Paul répond à cela en nous attardant sur une deuxième vérité. Dieu fait grâce, librement. Oui, Paul s'exclame au verset 14, « Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste ?» Réponse, certainement pas. Certainement pas. Pourrions-nous dire que Dieu soit injuste? Certainement pas. Bien malin sera celui qui traite Dieu d'injuste. Cette réaction que nous avons depuis notre enfance refait surface. C'est pas juste. C'est pas juste. Comment Paul répond-il à cette objection? Il répond par les Écritures. Il répond par la parole même de Dieu. C'est Dieu qui va répondre à cette objection. Et Paul cite deux textes de l'Exode, deux paroles prononcées par l'Éternel. La première, nous la lisons au verset 15. « En effet, il dit à Moïse, « Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » Il nous faut replonger dans le contexte de ce verset d'Exode 33. Juste avant, nous avons Exode 32. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu, il y a quoi dans Exode 32? Je crois l'avant. Le veau d'or. Le peuple a commis le terrible péché d'adorer un veau d'or qu'il avait fabriqué. Et Dieu a alors déclaré qu'il n'allait pas accompagner son peuple jusqu'en terre promise. Voici ce qu'il dit, Exode 33, verset 5. « Si je montais un seul instant au milieu de toi, toi, Israël, je te détruirai. » Le risque est tellement grand parce que le peuple est rebelle, parce que le peuple a une tendance à désobéir à Dieu. Le risque est grand que si Dieu continue de marcher avec eux, il finira par les détruire et les exterminer. Mais Moïse intercède pour le peuple et il supplie Dieu de les accompagner. Viens avec nous, marche avec nous. Qu'est-ce que les autres peuples diront de nous si ce n'est pas Dieu qui marche avec nous? Et dans sa grâce, eh bien effectivement, Dieu va accéder à cette demande. Et Moïse, émerveillé par ce Dieu de grâce, demande « Fais-moi donc voir ta gloire. » J'en ai déjà beaucoup vu, « Fais-moi donc voir ta gloire. » Et à quoi Dieu répond? Exode 33, verset 19. « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » C'est ainsi que Dieu se présente à Moïse comme un Dieu de grâce, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Un Dieu de compassion à l'égard d'un peuple qui a bien prouvé qu'il ne le méritait pas. C'est dans ce contexte-là que Dieu dit « Je fais grâce à qui je veux faire grâce » à l'égard d'un peuple qui ne le mérite pas. Et l'apôtre Paul reprend cet énoncé remarquable pour souligner une fois de plus, verset 16, « Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. » En toute liberté, Dieu choisit. Et il choisit qui il veut. En toute liberté, Dieu fait grâce. Il fait grâce à qui il veut et il fait grâce en particulier à des pécheurs. Voilà l'extraordinaire dans notre affaire. Dieu fait grâce à des pécheurs. Dieu, parce qu'il est comme ça, fait preuve de compassion à l'égard de celles et ceux qui se rebellent contre lui. Il a maintes fois manifesté cette grâce à l'égard du peuple d'Israël. Est-ce que nous pourrions encore dire que Dieu est injuste s'il ne fait que manifester sa grâce à l'égard de ceux qui ne le méritent pas? Est-ce que ça, c'est injuste? Est-ce que le fait que Dieu fasse miséricorde à l'égard de quelqu'un qui ne le mérite pas, qui mériterait plutôt sa fureur et son jugement, est-ce que ça, c'est injuste? En tout cas, ce serait une belle injustice. Voilà une chose qui doit positivement nous étonner. Dieu choisit des hommes et des femmes qui ne le méritent pas. Et tous ceux et celles qui ont été choisis ne le méritent pas. Dieu est-il injuste quand il fait cela? C'est tellement différent de notre manière de choisir. Selon vous, pourquoi certains d'entre nous étaient toujours les derniers à être choisis dans une équipe? Quel était le critère derrière? Peut-être parce qu'on n'était pas très bon en sport ou je ne sais quoi. Voilà, il y a des sourires, il y a des expériences vécues. Oui, parce que les hommes choisissent de cette manière-là. Il nous est peut-être déjà arrivé de tomber amoureux d'une personne qui préférait quelqu'un d'autre. Sous-entendu, quelqu'un qui était meilleur que nous. Oui, les hommes choisissent de cette manière-là, par des critères bien précis. Mais Dieu n'agit pas ainsi, parce que d'emblée, nous avons tous en commun le fait de ne pas être méritants. Il n'y a rien qui nous distingue. Et pourtant, Dieu fait grâce à qui il veut. Et la suite est un peu plus difficile, c'est que Dieu endurcit qui il veut. Et je voudrais prendre le temps aussi de pouvoir expliquer cela. Dieu endurcit qui il veut. Nous avons eu l'occasion l'année dernière de lire en Exode le récit des 10 plaies en Égypte. Nous avons vu à quel point le Pharaon s'était entêté, endurci, sans jamais vraiment laisser les Israélites s'en aller. Parfois il a dit oui, mais en fait il s'est rétracté. Et dans ce bras de fer entre le Pharaon et l'Éternel, il est clair que le souverain d'Égypte était en train de perdre. Et Paul mentionne cette parole tirée d'Exode chapitre 9. Et voici ce que nous lisons, Exode chapitre 9, versets 13 à 16. Dieu qui dit à Pharaon, « Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. En effet, cette fois, je vais envoyer tous mes fléaux contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à moi sur toute la terre. Si j'étais intervenu pour te frapper de la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. » Mais voilà pourquoi je t'ai suscité. C'est pour te montrer ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Dieu expose ici son intention. 6 fléaux se sont déjà abattus sur l'Égypte et le Pharaon n'a toujours pas cédé. Malgré l'endurcissement de cet homme, Dieu n'en sera pas moins vainqueur. Même par l'endurcissement du Pharaon, Dieu fait éclater sa gloire. Les plaies qu'il annonce révèlent sa puissance et vont contribuer à sa renommée auprès de l'Égypte, auprès d'Israël, auprès de toutes les autres nations. Tous sauront quel grand Dieu il est. Et si nous lisons dans le texte de l'Exode que Dieu endurcit le cœur du Pharaon, c'est notamment pour souligner qu'il l'abandonne à son entêtement, qu'il l'abandonne à son péché. Dieu ne suscite jamais le péché chez l'homme. Dieu n'est jamais responsable du péché chez l'homme. Le Pharaon est entièrement responsable de sa perte. Et cela contribue même à la réalisation du plan de Dieu, qui est de délivrer son peuple. Alors je vous pose cette question, Dieu a-t-il été injuste envers le Pharaon parce qu'il ne lui a pas fait grâce ? Dieu a-t-il été injuste envers un pharaon qui s'est entêté malgré les plaies qui s'abattaient sur son pays ? Dieu n'a-t-il pas été suffisamment patient ? Il y a eu quand même 10 plaies d'Égypte. Dieu dit dans le texte que j'ai lu à l'instant que, en un claquement de doigts, il aurait pu faire disparaître le pharaon. Mais Dieu a été patient. A laissé la possibilité au Pharaon de se rétracter, de pouvoir reconnaître que oui, Dieu est plus fort et je laisse partir ton peuple. Mais il n'a pas cédé. Dieu a-t-il été injuste envers lui ? Malgré les avertissements répétés, le Pharaon n'a pas voulu entendre. Et même si notre texte mentionne ce qui nous est le moins agréable, à savoir que Dieu endurcit qui il veut, à savoir la mention de sa colère et de la perdition au verset 22, l'accent principal de notre texte, et tout à l'heure je vous ai posé cette question, quelle est la tonalité de notre texte ? L'accent principal de notre texte porte sur la grâce de Dieu, porte sur sa miséricorde, sur sa compassion. Et je veux simplement mettre cela en évidence encore une fois, en passant en revue les versets que nous avons là. Si vous avez le texte sous les yeux, donc de Romains 9. Nous lisons au verset 15, « Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. » Nous lisons au verset 16 que tout cela dépend de Dieu qui fait grâce. Nous lisons au verset 17 que Dieu fait grâce, enfin verset 18, que Dieu fait grâce à qui il veut. Nous lisons ensuite au verset 23 « Que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a préparés d'avance pour la gloire ?» Verset 24 « Il nous a appelés. » Verset 25 « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. » Verset 26 « Vous n'êtes pas mon peuple. » Donc là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Verset 27, « Un reste seulement sera sauvé. » Verset 29, « Si le Seigneur de l'univers ne nous avait pas laissé une descendance, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorre. » Vous voyez l'abondance des mentions qui concernent la grâce de Dieu. Et il me semble, en lisant ce texte, que c'est la tonalité de ce texte. Que Paul veut mettre l'accent sur cette miséricorde incroyable à l'égard du pécheur. Oui, on peut ne pas comprendre complètement, et c'est normal, les raisons des choix de Dieu. Mais on ne peut pas remettre en question le fait que cette grâce est massivement présentée sous nos yeux. Là où le pécheur mérite le jugement, la condamnation, Dieu fait grâce. Et là aussi, c'est son choix et cela ne dépend pas de l'homme. Et cela fait partie de la bonne nouvelle que nous proclamons aux autres. Au lieu de compter tous nos péchés, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce en envoyant Jésus, son Fils, vivre une vie parfaite au milieu des hommes, suivant scrupuleusement la loi de Dieu. Dieu a fait grâce au moment où Jésus a souffert la torture de la croix pour les péchés et les injustices que nous avons commis, afin qu'il meure à notre place, afin qu'il soit condamné à notre place, afin qu'il paye pour nos fautes et que justice soit faite. Oui, là aussi, Dieu a fait grâce. Et Dieu a fait grâce quand il nous a appelés à croire en lui, à placer notre foi en son Fils qui est mort et ressuscité. Dieu a fait grâce quand il a pardonné nos péchés, sur la base de ce que Jésus avait accompli. Et Dieu a fait grâce quand, en entendant tout cela, quand en entendant la bonne nouvelle, nous avons admis que c'était vrai. Quand nous avons admis que nous étions pécheurs, que nous méritions que Dieu nous envoie en enfer. Quand nous avons admis que son amour était si grand, puisque le Fils de Dieu a donné sa vie pour nous. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce quand nous avons pris la décision de mettre notre confiance en lui pour notre salut, et non en nous-mêmes. Oui, Dieu fait grâce à qui il veut. Et donc, logiquement, s'il nous a fait grâce, c'est parce qu'il l'a voulu. C'est parce qu'il nous a choisis. Nous avons évoqué jusque-là que Dieu choisit librement et qu'il fait grâce aussi librement. Personne ne le contraint dans son élection. Personne ne peut faire valoir un avantage qui le distingue des autres. Mais si Dieu endurcit aussi qui il veut, ne devons-nous pas nous résoudre à une certaine forme de fatalisme? Qui peut résister à sa volonté? S'il endurcit qui il veut, qui peut résister à sa volonté? Et c'est ce que Paul va exposer dans la suite de notre texte. Je voudrais souligner cette troisième vérité que Dieu appelle librement. Dans cette dernière partie de notre texte, Paul évoque une objection de taille. Si Dieu a une volonté souveraine, s'il ne fait pas grâce à certains, pourquoi l'homme serait-il encore fautif? Ça, c'est une objection de taille. Si c'est Dieu qui souverainement décide que telle ou telle personne ne sera pas sauvé. Pourquoi l'homme serait-il encore fautif? Comment Paul répond à cela? Eh bien, il répond par plusieurs questions. D'abord, pour réveiller un petit peu, ou pour en tout cas confronter l'homme impertinent que nous pouvons être. Verset 20, « Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu ?» L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Verset 21, « Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable ?» L'image du potier ici n'est pas nouvelle, nous la retrouvons ailleurs dans la Bible. Et effectivement, on serait mal avisé si on commençait à dire à un potier qu'il a eu tort de faire ce vase avec cette forme, avec cette couleur, pour cet usage. Qui sommes-nous pour lui dire cela ? Jeudi dernier, j'étais à une exposition artistique avec toutes sortes de tableaux, toutes sortes de sculptures. Et indépendamment du fait de me prononcer sur ce que j'aime ou sur ce que je n'aime pas, ou moins, ou sur ce qui me paraissait réussi ou pas, il ne me viendrait pas à l'idée de dire à l'un des artistes, si j'en avais l'occasion, qu'il aurait pu ou qu'il aurait dû faire autrement. Ce qu'il a fait, il l'a fait et c'était son choix. Qui suis-je pour remettre son travail en question ? Alors, il faut bien admettre que parfois, il faut remettre en question le choix artistique de certains, comme lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de l'année dernière. Oui, parfois, il faut remettre en question les choix artistiques. Mais de manière globale, qui suis-je pour dire à un artiste, tu aurais dû faire autrement, choisir une autre couleur, ta sculpture, tu aurais dû choisir un autre modèle. Qui suis-je pour dire cela ? Et combien plus si nous nous adressons à Dieu ? Qui suis-je pour dire à mon Créateur, pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Suis-je en mesure de contester avec Dieu ? De lui dire, non, tu aurais dû me faire autrement. Si Dieu juge bon d'agir d'une façon ou d'une autre, c'est son droit en tant que Créateur. C'est son droit en tant que potier, pour reprendre cette image. Et c'est ce que Paul développe au verset 22 et 23. Le verset 22 est peut-être difficile à accepter, si nous conservons seulement l'image d'un Dieu d'amour. Et qu'en est-il de la justice de Dieu ? Dieu est-il juste quand il condamne ceux qui, par leur péché, provoquent sa colère ? Oui. Dieu est-il juste quand il manifeste son jugement à l'égard des hommes et des femmes qui lui désobéissent, malgré sa grande patience ? Toujours oui. Dieu est-il juste d'avoir abattu tous ces fléaux sur l'Égypte parce que le Pharaon a endurci son cœur ? Oui. Accuser Dieu d'être injuste serait fondé si Dieu n'agissait pas ainsi. Oui, dans ce cas-là, si Dieu ne sévissait pas, il serait injuste. Mais comme il nous le montre tout au long de sa parole, Dieu agit toujours de cette manière-là. Et comme je l'ai dit, l'accent principal porte sur la grâce de Dieu, à celles et ceux qu'il a d'avance préparé pour la gloire. C'est ce que nous voyons au verset 23. Rien que ça, il a préparé des hommes et des femmes à la gloire, des pécheurs à la gloire. Dieu a manifesté en faisant cela une immense compassion. Une grâce qui dépasse notre entendement. Si nous regardons à ce que nous sommes réellement, ces êtres capables du meilleur comme du pire, et surtout du pire, comment se fait-il que Dieu ait quand même de la compassion ? Comment se fait-il qu'il a en vue pour ses enfants une gloire éternelle ? Comment se fait-il qu'un Dieu si grand se préoccupe avec autant d'amour de personnes peu fiables et ingrates telles que nous sommes. Comment se peut-il ? Paul reconnaît la grandeur de cette compassion que Dieu a eue pour lui et pour les chrétiens de Rome. Et c'est là-dessus que je m'arrête un instant. Tout comme Dieu choisit et fait grâce selon sa liberté totale, eh bien Dieu appelle souverainement. Il appelle qui il veut à faire partie de son peuple. Et c'est ce que nous lisons au verset 24 à 26. Ainsi, il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les non-Juifs. C'est aussi ce qu'il dit dans le livre d'Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celui qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés « fils du Dieu vivant ». Paul combine ici le premier et le dernier verset du chapitre 2 d'Osée, du livre d'Osée. C'est la promesse glorieuse et pleine de grâce qui est faite, dans le contexte en tout cas, au peuple du royaume d'Israël, alors que ce peuple était coupable de nombreux péchés devant Dieu. À ceux à qui Dieu annonce son jugement, au point qu'ils ne seront plus appelés mon peuple, Dieu annonce en même temps une espérance. Un jour, ils seront de nouveau son peuple. De la même manière, et c'est ainsi que nous comprenons les propos de Paul, celles et ceux qui n'avaient pas ce statut de peuple de Dieu, c'est-à-dire toutes les autres nations, ont reçu par Christ la grâce de faire partie de son peuple, d'être appelé la bien-aimée, d'être appelé fils du Dieu vivant. Oui, encore une fois, quelle grâce pour nous qui n'avons peut-être aucun lien de sang avec Abraham, Isaac et Jacob. Quelle grâce d'avoir été choisi par le Dieu vivant, d'avoir été appelé par lui d'entre les non-juifs. Et quand bien même, nous savons que cela faisait partie du plan de Dieu depuis le début. Ce n'est pas moins extraordinaire de nous rendre compte que Dieu appelle vraiment qui il veut. Autant parmi les juifs que parmi les non-juifs, il appelle qui il veut. Et cela signifie aussi qu'il peut faire de quelqu'un qui ne faisait pas partie de l'Église un membre à part entière. Il y a dans notre entourage des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Cela ne signifie pas que Dieu ne les a pas choisis. À vrai dire, nous n'en savons rien. Mais si Dieu appelle qui il veut et qu'il peut faire de celui qui n'était pas son peuple, mon peuple, alors cela peut concerner les personnes auxquelles vous pensez. Parce qu'il appelle qui il veut. Donc en quelque sorte, ça peut être tout le monde. Il y a peut-être dans notre entourage des gens tellement loin du Seigneur que nous nous mettons à penser qu'il est impossible qu'ils deviennent chrétiens. Mais ce qui est impossible à l'homme est tout à fait possible pour Dieu. Et je voudrais illustrer cela par un moment émouvant que j'ai vécu cette semaine. Dimanche dernier, j'étais à l'église de Passage National pour prêcher là-bas. Et j'ai été accueilli, entre autres, par la sœur qui s'occupe actuellement de la partie sinophone là-bas en tant qu'évangéliste. Je n'ai pas tout de suite reconnu cette personne. Lors du culte, elle chantait avec une petite chorale qu'elle avait constituée et qu'elle dirigeait. Et je me suis dit qu'elle était musicienne. Je n'avais pas reconnu cette personne parce que cela faisait 25 ans que je ne l'avais pas vue. Et qu'à l'époque, cette personne n'était pas chrétienne. Et vous savez, les gens changent en 25 ans. Donc je ne l'ai pas reconnue tout de suite. D'ailleurs, elle-même ne m'a pas reconnue. Mais ça m'a intrigué quand même. Parce que j'avais l'impression que je la connaissais. Que je l'avais rencontrée. Que ce n'était pas la première fois que je la rencontrais, en fait. Et cette semaine, en échangeant avec elle, j'ai eu la confirmation que c'était bien elle. Elle qui, 30 ans plus tôt, m'avait appris le piano. Je ne savais pas que ma prof de piano s'était convertie. Et encore moins qu'elle était devenue évangéliste. Et cela m'a fait tout drôle, parce que j'étais bien loin d'imaginer cela. Mais Dieu appelle qui il veut. Et cela m'a tellement encouragé et m'a donné tellement d'espoir pour les personnes qui ne le connaissent pas. Parce que Dieu appelle qui il veut. Je me suis juste dit, en fait, Dieu peut tout. Il peut vraiment amener à la vie celles et ceux qui sont mort spirituellement. Dieu peut tout. Repensez encore une fois aux personnes où vous vous dites, vous ne soupçonnez même pas qu'elles puissent se convertir un jour. Bah, croyez-moi, qu'en me rendant compte, en rencontrant de nouveau mon ancienne prof de piano, je me suis dit, oui, Dieu peut tout. Et loin de nous l'idée de rester les bras croisés en laissant Dieu agir puisqu'il aura choisi les siens. Non, bien au contraire, nous devons annoncer l'évangile à toute personne qui n'appartient pas au Seigneur parce que nous ne savons pas qui sont les élus de Dieu. Et je suis sûr que nous serions bien surpris de voir un jour quels sont ceux que Dieu appelle efficacement à lui. Ne nous prononçons pas trop rapidement sur le sort de quelqu'un. Nous pouvons être bien surpris. Parce que cela ne dépendra pas de la personne, mais dépendra de Dieu. Donc je veux conclure en disant que la doctrine de l'élection de Dieu est une doctrine merveilleuse. Paul met en avant que le choix de Dieu n'est que pure grâce, pure compassion divine. Oui, Dieu fait grâce à qui il veut, mais ce n'est pas un choix arbitraire. Et ce matin, nous pouvons nous rendre compte, à nouveau, que Dieu est intervenu souverainement à un moment précis de notre vie ou de l'histoire de notre famille. Il nous a appelés et nous avons répondu oui par la foi. Oui, il nous a fait grâce en nous amenant à croire en Jésus-Christ. Oui, c'est bien vrai aussi qu'il nous a choisis. Indépendamment de nos œuvres, indépendamment de notre volonté, il nous a choisis pour avoir part à sa gloire. Il était tellement improbable, au vu de nos désobéissances, au vu de nos péchés, de tout ce qui est encore tortueux en nous, il était tellement improbable que nous ayons pu nous tourner vers Dieu. Et comme notre texte se termine à propos d'Israël, si Dieu n'avait pas fait grâce, où serions-nous aujourd'hui? Si Dieu n'avait pas fait grâce, où serions-nous aujourd'hui? Je vous invite à prendre un temps pour méditer sur ce qui vient d'être évoqué, sur la parole de Dieu. Et nous allons aussi, en même temps, projeter un chant en réponse à cela.